Dossier, pages 7 à 10. Senior, préserver son autonomie. Tout le monde souhaite vieillir chez soi, mais avec l'âge, les gestes du quotidien deviennent parfois plus difficiles. Aussi, pour préserver sa qualité de vie et sa liberté, faut-il mettre toutes les chances de son côté. Cela passe avant tout par de bonnes habitudes, bien s'entourer, garder confiance en soi, s'alimenter selon ses besoins, travailler sa force et sa souplesse pour prévenir les chutes. Bien vieillir, c'est tout un programme. Lorsque l'on devient trop âgé ou trop mal en point pour continuer à vivre chez soi, la perspective de quitter l'endroit dans lequel on a vu grandir ses enfants, où se trouvent tous ses souvenirs, ses repères, est un véritable crève-cœur. Trop souvent, l'on ne se résout à aller en maison de retraite que parce que l'on n'a pas d'autre choix. L'assurance de pouvoir vieillir chez soi dans de bonnes conditions devrait pourtant être offerte à tous, d'autant plus que demeurer dans un environnement familier permet de maintenir des relations sociales que l'on entretient souvent depuis de longues années. Amis, voisins, commerçants et parfois la famille restent à proximité. Les seniors gardent aussi la possibilité de poursuivre des activités qui leur permettent de rester intégrés à la société, actions de bénévolat, suivi de cours dans des universités du troisième âge, activités physiques ou culturelles par le biais d'associations. Des relations sociales primordiales. La crise sanitaire a mis au jour l'énorme besoin de liens sociaux de toute la population, et ces images de personnes très âgées, confinées seules dans leur chambre, isolées du reste du monde, ont frappé tous les esprits. Empêchées de voir leurs proches, elles ont perdu goût à la vie, et certaines d'entre elles, déjà fragilisées par une maladie neurodégénérative comme Alzheimer, ont connu un déclin cognitif rapide. Cet abandon a montré à quel point les liens affectifs et sociaux participent au maintien de l'autonomie. Ils permettent en effet de prévenir le déclin du fonctionnement cognitif, qui est la première cause de dépendance chez la population âgée. Entretenir son corps et son cerveau. Pour vieillir dans les meilleures conditions possibles, il est également nécessaire d'entretenir son corps par une activité physique, même modérée, marcher, monter des escaliers, jardiner ou encore suivre un programme de renforcement musculaire, particulièrement avec des exercices contre résistance. Ajouter à cela quelques minutes quotidiennes d'étirement et d'assouplissement pour gagner en mobilité articulaire. Cette activité est aussi essentielle pour le moral et pour préserver de bonnes capacités cognitives, car bien que le cerveau ne soit pas un muscle, l'activité physique permet de le maintenir en forme. En augmentant le rythme cardiaque et le flux sanguin, elle favorise l'apport de nutriments et d'oxygène et améliore ainsi la plasticité et le fonctionnement cérébral. Bien entendu, l'activité doit être adaptée aux possibilités de chacun, choisie avec le médecin traitant et doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée. Adapter son lieu de vie. Conserver un bon tonus musculaire aide aussi à éviter les chutes. C'est indispensable, car avec l'âge, le risque augmente. Or, une fracture du col du fémur, par exemple, est souvent synonyme de complications pouvant être à l'origine d'une perte d'autonomie et d'une difficulté à conserver un maintien au domicile. C'est la raison pour laquelle il est important de prévenir la chute et de ne pas attendre d'être tombé pour sécuriser son domicile. Douche à l'italienne, revêtement antidérapant, range-fil pour les câbles de téléphone, rampe d'escalier, etc. doivent ainsi être installés de manière à éviter tout danger inutile. Les personnes rencontrant des difficultés plus marquées peuvent être équipées d'un système de téléalarme qui, en cas de chute, avec une impossibilité de se relever, permet de prévenir les proches ou un central dédié. Enfin, le secret pour bien vieillir, c'est d'abord prendre soin de sa santé et consulter régulièrement son médecin traitant qui vous prescrira des bilans de santé. Faire contrôler ses dents, sa vue, son audition, son taux de cholestérol. Ne pas négliger les dépistages des maladies cardiovasculaires, des cancers du sein ou du côlon, etc. est plus que recommandé. Pour vous informer, rendez-vous sur le portail pour-les-personnes-ag.gouv.fr. Isabelle Coston. Une cinquième branche de la Sécu consacrée à l'autonomie. Depuis le mois d'août 2020, la Sécurité sociale compte 5 branches. L'autonomie est venue s'ajouter à la maladie, la famille, les accidents du travail et la retraite. Cette nouvelle branche, dont la gestion a été confiée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, s'occupe des dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle est financée par les crédits de solidarité pour l'autonomie et ceux dédiés à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH. Une loi grand âge et autonomie pour bientôt ? Annoncée en 2018, décalée à 2019 puis à 2020, la loi sur le grand âge et l'autonomie, dont le principal enjeu est de donner aux personnes âgées la possibilité de vivre chez elles le plus longtemps possible, n'a toujours pas vu le jour à l'heure où nous écrivons ces lignes, en raison notamment de la pandémie. La création d'un nouveau modèle d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, avec davantage de médicalisation, de collaboration avec l'hôpital et d'ouverture vers l'extérieur fait aussi partie des pistes du projet de loi. Autre chantier important, le développement de modèles intermédiaires entre ces établissements et le domicile, comme les habitats partagés ou les résidences autonomie. Enfin, la loi devrait aussi comporter un important volet consacré à la prévention de la dépendance et au soutien des aidants. L'aide à domicile pour être accompagnée au quotidien. Lorsque certaines tâches quotidiennes deviennent plus difficiles à accomplir, il est possible de se faire aider au domicile. Différents types de services existent en fonction des besoins. L'aide à la personne pour se laver, s'habiller, se coucher. L'aide aux tâches journalières, préparation des repas, ménage, jardinage, etc. Et l'aide aux activités sociales. Démarches administratives, visites chez le médecin, accompagnement pour les loisirs. Il existe plusieurs façons de recruter une aide à domicile, employer directement la personne de son choix, faire appel à un organisme mandataire, vous restez l'employeur mais le mandataire gère l'ensemble des démarches administratives, ou recourir à un prestataire habilité par le conseil départemental. Il a le statut de service médico-social et salarie l'intervenant. Le Centre local d'information et de coordination gérontologique, CLIC, de votre département ou le Centre communal d'action sociale, CCAS, vous renseignera sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre et vous aidera pour les formalités. L'allocation personnalisée d'autonomie, APA, notamment financée par les départements, est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Les caisses de retraite, elles, versent l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, ayant de faibles revenus et peuvent participer au financement d'aides techniques. De même, le département peut, sous conditions de ressources, financer une partie de l'aide à domicile. Vous bénéficierez en outre d'un crédit d'impôt. Le rôle des aidants. Un début de reconnaissance. Par nécessité ou par choix, 15 millions de personnes en France viennent en aide à un proche handicapé, malade ou âgé. En 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement donne, pour la première fois, un statut officiel aux aidants et leur accorde un droit au répit pour leur permettre de se reposer. Ils peuvent désormais accéder à des aides qui participent au financement de l'accueil de la personne aidée dans une structure de jour ou de nuit, un hébergement temporaire, en établissement ou un relais à domicile, le temps de récupérer. Enfin, depuis octobre 2020, le congé de proche aidant permet à l'aidant salarié du secteur privé, indépendant ou demandeur d'emploi, de cesser son activité pour soutenir un proche âgé pendant une durée limitée, tout en étant rémunéré à hauteur de 43,83 euros par jour pour les personnes vivant en couple et de 52,08 euros par jour pour une personne seule. Une alimentation appropriée. Si les besoins en matière d'alimentation, mais aussi les envies, se modifient avec l'âge, la nutrition reste un élément clé pour vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Contrairement à une idée fausse, ce n'est pas parce que l'on vieillit que l'on doit moins manger. Parallèlement à une activité physique régulière, les seniors doivent consommer des protéines midi et soir, viande, œufs, poisson ou double portion de fromage. Celles-ci sont en effet essentielles pour préserver la masse musculaire. Les fruits et les produits laitiers, eux, sont recommandés notamment pour lutter contre l'ostéoporose, une diminution de la densité osseuse qui fragilise les os et augmente le risque de fracture. Il est aussi fortement conseillé de prendre des suppléments de vitamine D à partir de 60 ans afin de prévenir les carences. Celles-ci entraînent une faiblesse musculaire et donc un risque de chute accru. Un bon taux de vitamine D est également associé à une meilleure performance du mécanisme de la mémoire. Une personne sur trois de plus de 65 ans est victime d'une chute chaque année. Éric Malevergne, chargé de mission à la Fédération solidaire pour l'habitat, SOLIHA, S-O-L-I-H-A, adapter le domicile et financer les travaux. Aménager son logement lorsque l'on vieillit est essentiel pour rester autonome le plus longtemps possible. SOLIHA accompagne les seniors pour mener à bien leurs travaux. Le mutualiste. Pouvez-vous nous présenter SOLIHA en quelques mots? Éric Malevergne. SOLIHA est un mouvement associatif reconnu Service Social d'Intérêt Général, SSIG. Avec 145 associations qui couvrent l'ensemble de la métropole et les départements d'outre-mer, ce qui correspond à 3100 salariés et 2200 administrateurs, c'est le premier acteur associatif de l'habitat privé à vocation sociale. Parmi les 70 000 interventions réalisées chaque année, amélioration du logement, sortie d'insalubrité, adaptation pour le maintien à domicile d'une personne âgée ou handicapée, rénovation énergétique, etc., près de 40% concernent les seniors. Le mutualiste. Qui peut bénéficier des services de SOLIHA? Éric Malevergne. Les personnes éligibles sont celles qui ont droit à des aides sociales déterminées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANAH, A-N-A-H. Les services d'action sociale, des caisses de retraite, des collectivités locales, etc. SOLIHA ne fait pas de démarchage, mais tient des permanences dans les mairies ou sur les marchés via des trucks aménagés. Nous sommes référencés par toutes les caisses de retraite avec qui nous avons un partenariat. Le mutualiste. Comment intervenez-vous? Éric Malevergne. Chaque demande est évaluée, un technicien du bâtiment et ou un ergothérapeute se rend au domicile pour évaluer les besoins et conseiller sur les aménagements nécessaires. Après examen des devis, tous les financements sont mobilisés par nos conseillers Habitat. Une fois les travaux finis, l'association vérifie qu'ils ont été correctement réalisés Elle peut même intervenir en cas de litige. C'est ce que l'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Un contrat est passé avec la personne qui veut faire réaliser les travaux et la participation en matière d'ingénierie, expertise demandée par l'association, est fixée dès le départ et ne varie pas, que les travaux coûtent 3 000 ou 15 000 euros. Généralement, il s'agit d'une somme minime. Pour Paris, par exemple, le montant est inférieur à 100 euros. Propos recueillis par Isabelle Coston.